Aujourd'hui, c'est notre quatrième dimanche sur les solas de la réforme, les cinq résumés du message de la réforme. Alors juste pour ceux qui peut-être n'étaient pas là les dernières fois, ou ceux qui sont de passage, j'aimerais juste les reprendre ensemble. Je ne sais pas si vous le savez, mais les cinq résumés, les cinq solas, en fait répondent à cinq questions. La première question, pour tout homme, toute femme, tout croyant, mais pas seulement, c'est « À quoi dois-je obéir ?» À cette question, ceux qui avaient redécouvert le message de l'Évangile à la Réforme ont dit « Sola Scriptura », l'Écriture seule. C'est la Bible qui est la seule base pour nos vies, pour ce que nous croyons. La deuxième question, c'est « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Eh bien, c'est le deuxième sola, sola fide, la foi seule. Crois seulement, c'est par ce moyen que tu es sauvé. Et la foi, comme vous l'avez sûrement vu dans les études bibliques, dans les groupes de maison, pour ceux qui l'ont déjà fait, la foi, c'est connaître, comprendre un minimum de choses, mais c'est aussi y croire et surtout faire confiance. Alors faire confiance à qui, justement, c'est la troisième question. À qui faire confiance? Eh bien, Christ seul. Il est le seul à qui je peux réellement, pleinement faire confiance. Il est le seul à pouvoir faire le lien entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. La quatrième question, c'est celle que nous verrons aujourd'hui. Que dois-je mériter? Eh bien, la réponse, c'est sola gratia, la grâce seule. En fait, tu ne peux rien mériter. Ce n'est pas à cause de nos efforts ou parce qu'on le mérite, mais c'est uniquement parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous offre, c'est donc gratuit, d'être racheté de nos péchés, de nos fautes. Et tout cela dans quel but? Quel est le but? Cinquième question. Eh bien, soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Dieu est le seul que nous devons adorer et prier. Si vous avez autre chose dans votre cœur que vous adorez, autre chose qui vous est plus chère, vous êtes à côté de la plaque. Dieu seul doit être adoré et peut-être prié. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais il s'obtient par la grâce seule de Dieu. J'aimerais vous poser une autre question. Comment est-ce que vous voyez Dieu dans votre vie de tous les jours? Je ne sais pas. Comment ça se passe dans votre vie de tous les jours avec Dieu? Quel genre de réaction est-ce que tu as quand tu te sens indigne, quand quelque chose cloche, quand tu vois que ta vie spirituelle n'est pas ce qu'elle devrait être, n'est pas au clair? Et peut-être au point mort. Comment est-ce que naturellement nous réagissons? Il me semble que nous faisons tous comme nos premiers parents, on se cache. On se cache de Dieu, on n'ouvre plus la Bible. Si c'est votre réaction parfois, pensez à ce verset, si vous prenez des notes, notez-le, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dieu veut non pas une relation basée sur la peur, sur la crainte, Dieu veut une relation basée sur la confiance. Et ce qu'il y a, c'est que de tout temps, tous les êtres humains sont quelque part conscients de leur faiblesse morale. Et de tout temps, les hommes se sont demandé comment leur relation avec Dieu pouvait être rétablie, quand c'est pas correct, quand on voit que ça cloche. Et à cette question qui est universelle, il y a une réponse naturelle qui est tout aussi universelle. Chaque être humain se dit, mais je dois sûrement payer, faire quelque chose, souffrir peut-être, comme pour contrebalancer le mauvais poids de mes fautes. C'est une réponse toute humaine. C'est ce que nous apprend la vie. Tout se paye, tout se monnaie. Mais dans le passage que nous allons lire ce matin ensemble, le salut que Dieu offre est une grâce, est une faveur imméritée de Dieu. Nous allons lire quelques versets dans Éphésiens, je vous invite à prendre avec moi. Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens dans chapitre 2. Et nous allons lire ces versets 1 à 10 qui nous parlent du salut par la grâce. Juste avant, dans Éphésiens, Paul rappelle et il fait ce magnifique résumé de ce qui est le but du plan de Dieu, le but de Dieu. Il dit, voilà, Dieu veut tout réunir sous l'autorité de Christ. Ça, c'est le but de Dieu. Et dans la prière qu'il fait pour les Éphésiens, qui est aussi une prière pour nous, Paul prie que les Éphésiens puissent comprendre la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la résurrection, dans le règne que Jésus exerce. Comprendre l'héritage qui est accordé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et dans les versets que nous allons lire, les versets 1 à 10 du chapitre 2, il y a trois étapes. Il y a un avant, il y a un après, c'est-à-dire un maintenant. Mais il n'y a pas qu'un avant, un après, ou un avant, un maintenant. Tout cela a aussi un but. Et je vous propose de lire Éphésiens 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant, vous étiez déclarés morts. Déclaré mort. Quand je regarde la vie aujourd'hui, quand je regarde un peu comment mes amis autour de moi, mes collègues de travail se comportent, je remarque une chose, c'est qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, les gens aiment commenter leur propre vie. Tout ce qu'on fait avec un tweet, avec un post, avec un statut, a souvent ce but-là. On commente notre propre vie. Je me suis dit, quel serait le statut le plus pourri qu'on pourrait mettre suite à une journée la plus pourrie possible. Je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas grave du tout, ce n'est pas le plus important. Mais il y a même un site qui collectionne les trucs les plus pourris qui peuvent vous arriver et que les gens publient. J'ai une fois ou deux lu une de ces publications. Il y en a une qui m'avait fait pas mal rire, alors je vous la donne. Ces publications commencent toujours par « aujourd'hui ». Aujourd'hui, j'avais très mal au dos. Ma femme m'a donné des médicaments pour la douleur. 5 heures plus tard, elle s'est aperçue que ce n'étaient pas des anti-inflammatoires, mais des antidépresseurs. Conclusion, j'ai toujours mal au dos, mais je m'en fous. Commentaire de sa propre vie le plus pourri possible. moins rigolo. C'est ce que nous dit Paul. Vous étiez mort. Trois manières, trois mots que Paul utilise pour décrire notre état sans Christ. Mort. La Bible nous dit que ce sera, que c'est notre dernier ennemi. On peut trembler devant la mort, devant des mots comme ça qui ont un poids fort. On pourrait même se dire en lisant, peut-être qu'on a lu un peu vite là tout à l'heure, mais on pourrait se dire, mais Paul, est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu? Est-ce qu'il veut peut-être simplement nous faire peur? Non, je crois que Paul veut nous pousser à être reconnaissants. Il ne veut pas nous laisser dans la peur. Mais il veut aussi, et d'abord, que nous comprenions quel était, ou quel est peut-être pour vous aujourd'hui encore, votre état réel. Bien sûr, vous n'êtes pas mort physiquement, sinon vous ne seriez pas là. Mais vous êtes mort, ou nous étions morts, spirituellement. L'homme, par défaut, par naissance, est mort spirituellement. Il est aveugle aux réalités de Dieu. Il est sourd à la voix de son esprit. Un homme naturel est sans compréhension pour l'œuvre de Dieu. Oui, tous les êtres humains sont morts sans Christ. Seulement certains, Paul il dit vous, hein. Non, après il dit nous. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous. Alors faisons un peu, je ne vais pas être macabre, mais faisons un peu l'autopsie de cette mort. Cette mort est causée, nous dit Paul, par nos fautes et nos péchés. Le lien de la mort est fort. On ne se relève pas d'une mort, qu'elle soit spirituelle ou physique. Comment explique-t-on le mal dans ce monde? Quand on regarde un peu ce que nous disent les penseurs d'aujourd'hui ou d'avant, on peut voir trois choses. Certains disent que c'est la société qui corrompt, qui rend mal, mauvais. Soit c'est peut-être une forme de conditionnement, vous avez été conditionné à être mauvais. Soit c'est peut-être votre inconscient. C'est vrai que le mal est quelque chose de complexe. On voit dans ces paroles de Paul que le mal est à la fois intérieur, extérieur, qu'on est à la fois passif, qu'on est à la fois actif. On voit en effet que c'est l'influence de ce qui nous entoure, le monde, qui a aussi peut-être une influence qui est moins admise aujourd'hui. On parle souvent des esprits, mais on parle peu du diable. Les gens sont peu enclins à reconnaître que le diable existe. C'est aussi une influence. Satan pousse les êtres humains à être rebelles à Dieu, à Christ, à être contre le but de Dieu, qui est de tout réunir sous l'autorité de Christ. On est mort, ou nous étions morts et enchaînés. On peut même être enchaîné par des choses qui sont en soi bonnes, mais qui prennent la place de Dieu. Peut-être que si vous posiez la question à ceux qui vous connaissent bien, dans votre famille, dans votre entourage, et que les gens soient honnêtes avec vous, peut-être que certains ou qu'un ami te dirait « Mais tu sais, tu te mets quand même souvent en colère. Tu es souvent impatient. Quand même souvent, tu manques d'amour. » S'il y a des choses récurrentes comme ça, n'est-ce pas parce qu'il y a un lien fort qui te retient? Nous étions morts, et Paul ajoute, par nature voués à la colère. Ah bon, Dieu serait en colère? Oui, oui, c'est bien de la colère de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas de la colère de nous. Souvent on entend les gens dire, mais non, mais si Dieu, et puis les gens sont en colère contre Dieu. Non, non, c'est bien la colère de Dieu contre nous. Mais Remarquez, si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, que la colère de Dieu, elle n'est pas arbitraire. Elle est raisonnable. Elle est basée sur sa sainteté. La colère de Dieu n'est pas imprévisible. Non, elle est bien prévisible, car basée sur sa justice qui doit être rendue. La colère de Dieu, c'est juste la réponse prévisible et raisonnable d'un Dieu juste et saint à des personnes qui vivent rebelles, en rébellion contre lui. Il y a des gens qui sont pessimistes quant à la nature humaine. Il y a d'autres qui sont optimistes quant à la nature humaine. La Bible, et Paul au travers de ses propos, il faut bien qu'on le comprenne, nous décrit une situation qui est plus que sombre, qui est plus que noire. Mort, voué à la colère de Dieu. Si le message s'arrêtait ici, ce serait assez terrible. Paul continue. Et après être descendu dans ce qui est le plus noir, l'abîme le plus profond, dans ce qu'il décrit être notre précédente situation, Paul va nous élever au plus haut pour nous montrer la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Il y a ces deux petits mots, on pourrait faire juste un message là-dessus, au verset 4. Mais Dieu. Mais Dieu. Regardez une fois si vous avez un logiciel biblique ou l'application sur votre smartphone, tapez « mais Dieu » et regardez toutes les fois où ces deux mots apparaissent et qu'est-ce qui s'est passé avant, après. Mais Dieu. Je me faisais cette réflexion il y a quelques jours en entendant sur la radio des scientifiques qui parlent que quand même des univers parallèles pourraient quand même exister, peut-être, probable. Et puis on voit, pour ceux qui le savent pas, mais il y a beaucoup de séries télé qui sont basées sur cette idée-là qu'il y a des univers parallèles. Il y a une chose, un tort que fait cette idée-là, surtout spirituellement, c'est que si on accepterait de croire qu'il y a des univers parallèles, au-delà de l'illogique que c'est physiquement parlant, mais si on accepte cette idée-là, on accepte en arrière-plan le fait que Dieu aurait pu imaginer se détourner de ce qu'il a créé. C'est vrai, Dieu aurait pu se dire, oh, ils l'ont bien mérité, hein. On va les laisser pourrir, puis on refait autre chose. Dieu n'a jamais pensé cela. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. La colère et l'amour de Dieu ne s'excluent pas. Ce qui change tout, ce qui peut tout changer dans votre vie, c'est Dieu, et uniquement Dieu. Dans ces trois versets que je viens de relire, il y a trois oppositions très claires avec ce que Paul a dit avant. Nous étions sous la juste colère de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes au bénéfice de sa compassion, de sa miséricorde. Il nous a épargnés de la condamnation. Nous étions morts par le fait de nos fautes, de nos péchés. Il nous a rendus vivants avec Christ. Nous étions esclaves. Il nous a ressuscités ensemble pour nous placer dans les lieux célestes avec Christ. Du plus bas au plus haut, au-dessus de tout. Face à la condamnation, il intervient par la miséricorde. Face à la mort, il intervient par la résurrection. Face à l'esclavage, il intervient par le fait de nous faire asseoir, de nous faire siéger à côté de Christ dans les lieux célestes. Petite question de nouveau. À quoi est due cette intervention de Dieu ? S'est-il dit comme hier soir, Sophie, les enfants regardaient dans sa Christar ? Ou peut-être que vous avez vu The Voice quelques semaines avant ? Est-ce que Dieu s'est dit « Je vois en toi un potentiel » ? En tout cas, pour la danse, pas pour moi, mais... Est-ce que Dieu est intervenu parce qu'il a vu un potentiel quelque part chez nous ? Est-ce qu'il y avait en sommeil une intelligence spirituelle chez quelqu'un ? Non. La raison ne se trouve pas en nous, mais en lui. Paul le martèle 4 fois. Dieu est vraiment la seule cause du changement. À cause de quoi ? De sa miséricorde, de sa compassion. À cause de son amour. À cause de sa grâce. À cause de sa bonté. Je l'ai peut-être déjà dit une fois ici. Je ne sais pas, je me suis fait une fois un résumé simple pour comprendre et avoir bien en tête ce qu'était la grâce, la miséricorde. Et je vous le redis, la justice, commençons par là, c'est tout simplement recevoir ce qu'on mérite. C'est d'accord ? Si c'est juste, on reçoit ce qu'on mérite, en bien ou en mal. La miséricorde, on pourrait le résumer ainsi, c'est ne pas recevoir tout ce qu'on mérite. Dieu nous épargne, ne nous donne pas tout ce que nous méritions. Et la grâce, je garde ça pour tout à l'heure. Dieu a fait en sorte que sa colère ne s'abatte pas sur nous, que nous soyons épargnés. Mais sa colère s'est abattue sur Jésus-Christ. Imaginez, quand Christ est mort à la croix, il a fait nuit noire durant 3 heures. Je pense que c'est même plus qu'un symbole, mais quelle puissance dans cet événement pour montrer ce qui se passait à ce moment-là. Sa miséricorde, son amour. Dieu nous aime alors que nous étions rebelles. Peut-être que des fois vous vous dites, Dieu, il doit m'aimer un peu comme mon frère ou ma sœur. Parce que vous savez, quand on est, vous avez pour beaucoup, je pense, des frères et sœurs, et quand on est frère et sœur, quand on vous pose la question, mais vous, ça va, dans la famille, vous vous aimez bien ? Oui, oui, on s'aime bien. Ça va, c'est mon frère, quoi, c'est ma sœur. On s'aime, mais pas toujours. On s'aime parce que on est de la même famille. Voilà, on est obligé un peu de faire avec. Et peut-être que des fois, vous avez l'impression que Dieu vous aime un peu de la même manière. Oui, bon, je l'aime parce que je suis obligé de faire avec, quoi. Je l'ai promis, alors il faut bien que je le fasse. Mais franchement, t'es pas doué, quoi. Hein ? Non, non, Dieu, il n'aime pas comme ça. Dieu, à aucun moment, ne regrettera ou ne regrette de t'avoir sauvé. Dieu savait ce qu'il achetait en payant au travers de Jésus-Christ pour toi. Dieu savait bien. Il savait ce qu'il achetait, il savait ce qu'il achète. Il sait ce qui va se passer dans ta vie. Il sait à quoi ressemblait avant ta vie, et il sait aussi à quoi va ressembler après ta vie. Dieu t'aime, même quand tu es rebelle. La grâce, Dieu est miséricordieux, il nous épargne, nous donne un cadeau immérité, il nous pardonne. Vous pouvez retenir ce que j'ai dit tout à l'heure, la loi, la justice, avoir ce qu'on mérite, la miséricorde, ne pas avoir tout ce qu'on mérite, la grâce, avoir ce qu'on ne mérite pas. On ne méritait pas le salut, mais Dieu nous en fait cadeau. Sophie, mon épouse, qui pensait à mon message de ce matin, dans la semaine m'a donné une image qu'on a dans notre jardin. Elle m'a dit, tiens, tu pourras dire ça, la grâce, c'est comme les tomates cerises dans notre jardin. Je dis, vas-y, développe. Il faut les comprendre, les femmes, des fois, c'est compliqué. Hein. Mais j'ai très vite compris ce qu'elle voulait dire. On a planté des tomates l'année passée, des petites tomates cerises. On n'a pas un tout petit carré, là. On a eu des tomates cerises, donc, l'année passée. Cette année, on n'a rien replanté, on ne pensait pas du tout, voilà, on n'est pas grand jardinier. Et tout d'un coup, il y a eu des rejetons, il y a des plants de tomates qui ont poussé, et ça donnait des tomates. Et Sophie me dit, mais tu vois, la grâce, c'est comme ça. On n'a rien planté, on n'a rien arrosé, et c'est vrai, on s'en est pas du tout occupé. On n'a rien entretenu, et encore aujourd'hui, si vous venez à midi, il y a des tomates qui poussent là. On cueille encore des tomates, des petites tomates cerises. Ça, c'est la grâce. Dieu donne ce que nous ne méritions pas. Et la bonté, Dieu fait preuve de bonté, alors que toutes nos actions méritaient qu'on soit aliénés. Dieu est donc intervenu, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Nous étions sous sa colère, mais il nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde. Nous étions morts, il nous a rendus vivants avec Christ. Nous étions esclaves, il nous a assis dans les cieux, dans les lieux célestes avec Christ. Comment c'est possible de aussi bas à aussi haut? Eh bien, sachez que, et on le voit aussi dans ce passage, tout vient de notre union à Christ. Dans ces versets, on ne voit pas bien en français, mais il semble qu'il y ait que les mots, je ne suis pas du tout spécialiste du grec, mais que les mots en grec montrent qu'il y ait, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, une forme de synchronisation. On est synchro avec Jésus. Alors, pas une synchronisation comme avec vos téléphones ou avec les ordinateurs, où il faut tout le temps que ça synchronise et puis des fois ça rame parce que ce n'est pas encore synchronisé. Non, non, non. Parce que Jésus a fait à la croix, lui qui est la seule référence, eh bien, une fois pour toutes, nous avons été synchronisés avec lui. Paul, comme j'ai dit en introduction, juste avant, dans le chapitre 1, prie pour que nous puissions comprendre la puissance qui était déversée dans la résurrection, qui était à l'œuvre dans la résurrection de Jésus, dans son règne. Et on découvre ici que ce qu'on doit saisir, c'est ce salut accompli pour nous et qu'on y est associé. Il y a eu une fois pour toutes synchronisation avec Jésus. Et c'est à ça qu'on doit revenir. On doit et on peut vivre déjà aujourd'hui dans cette réalité où on est synchro avec Jésus. Même si c'est vrai, et le passage le dit aussi, il y a une manifestation pleine et entière qui sera à venir. Mais ce qui est dit ici est crucial pour notre foi. Pour notre foi en Jésus. Encore une question. Comment est-ce que vous répondez à la question est-ce que tu es chrétien? Quand quelqu'un te pose cette question, est-ce que tu es chrétien, comment est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis, écoute, en tout cas j'essaye de l'être, je fais de mon mieux, je fais du bien, j'essaie de prier, j'essaie d'être régulier au culte. Ou est-ce peut-être que tu te dis, mais ah, il y a des jours où je sens que je suis chrétien, des jours pas du tout. Si tu penses un peu comme ça, je pense que ce matin tu auras réalisé que ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Soit tu es mort, soit tu es vivant. Soit tu es esclave, soit tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. On est au bénéfice de l'œuvre de Christ. Ce ne sont pas mes œuvres, mais les siennes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Comment cette vie, cette puissance de la résurrection a agi dans le cœur et dans la vie des Éphésiens? Vous le savez? Vous ne le savez pas? Alors on va le lire. Acte 19. Paul a passé 3 années à prêcher régulièrement la parole de Dieu à Éphèse. un peu moins de 3 ans. Et puis, voilà ce qui s'est passé. On le lit dans Acte 19, les versets 19 et 20. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement, ou autrement dit, avec puissance. Voilà l'impact de l'Évangile sur ces gens à Éphèse. Voilà l'impact de cette synchronisation avec Jésus. Et on peut imaginer, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ou ceux qui ont déjà lu, dans une ville, une région comme Éphèse, où tout tournait autour du commerce religieux avec le temple de Diane, on peut imaginer le genre de crainte, de peur qu'il pouvait y avoir chez les gens, de tout d'un coup dire « j'abandonne tout et je viens à Christ ». Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont ces craintes aussi, ces peurs de dire « je laisse tout tomber ». Tout ce en quoi j'ai mis ma confiance et je viens à Christ. Mais l'impact de la parole de Dieu est une plus grande puissance à l'œuvre que celle qui agit dans ce monde. La puissance qui agit dans la résurrection de Christ est aussi à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Les gens qui ont cru à Éphèse ont été associés à Christ, comme nous. De mort, nous sommes devenus vivants. D'esclaves, nous devenons assis auprès du Christ. Alors, qu'est-ce que cette assurance-là pourrait faire dans notre vie? Je pense qu'elle peut te libérer de la peur de l'échec, de la peur de l'avenir, de la peur de la critique, libérer de peut-être certaines colères qui sont enfouies au fond de toi, te donner de l'assurance, de la paix, de la sécurité. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, Dieu a une grâce particulière pour toi. Paul en était convaincu. J'en suis convaincu et j'espère que vous en êtes convaincu. Quand on est uni à Christ, on peut et on veut vivre différemment. Alors tout ça, c'est dans un but précis. Si nous étions morts, que nous sommes devenus vivants, c'est pour un but précis. C'est les derniers versets du passage que nous avons lu. Quand on dit « j'essaye d'être chrétien », ça peut paraître humble, mais ça n'a rien à voir avec l'humilité dont nous parle Paul. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot-clé de ce passage, c'est bien sûr la grâce. Même la foi en Jésus-Christ est une grâce, un cadeau. C'est la réponse à la grâce de Dieu. Tu as le désir d'aimer Jésus, de le connaître. La seule réponse qui active cette grâce, c'est la foi. Et la foi, c'est la confiance en ce que Dieu a fait pour nous réconcilier avec lui. C'est vrai que parfois, même dans nos milieux, on présente le salut que Dieu offre comme une corde qu'on aurait lancé à une personne qui est en train de se noyer. Et puis la personne saisit cette corde alors qu'elle a lutté depuis longtemps et elle est sauvée. Mais ce n'est pas ce que nous dit Paul ici. Si on reprenait l'image de la corde, en fait la corde elle est jetée à un corps qui est inanimé, sans vie, qui n'a aucun moyen de saisir cette corde. Le salut de Dieu nous échappait complètement, totalement. Pas la moindre parcelle de potentiel en nous. C'était la mort, c'était l'esclavage. Aucune raison de faire le fier. Même la foi en Jésus est un don de Dieu. Finalement, les amis, toute la vie chrétienne est un retour à cette vérité-là. Paul écrit aux Éphésiens, l'Église qu'il a sûrement la plus enseignée. Et qu'est-ce que Paul donne comme secret pour la puissance? Est-ce qu'il y a un truc en plus à aller chercher? Non, Paul rappelle cette vérité. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Il l'a fait une fois pour toutes, et cela nous suffit. Alors peut-être me direz-vous, mais c'est trop facile. J'ai cette sécurité, et après je fais comme je veux, je vis comme je veux. Non, on n'est pas sauvé à cause de nos œuvres, mais on a toute la vie pour découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et pour les accomplir. C'est dans notre manière de nous engager, dans notre manière de parler, de blaguer. Ce qui est important dans notre vie, c'est comment la grâce de Dieu va se refléter, comment sa puissance agit et libère. De quoi est-ce que la grâce de Dieu vous a libéré dernièrement? Est-ce que vous avez la liberté d'en témoigner quand vous êtes à deux ou trois entre vous, quand vous êtes en rencontre de groupe de maison au feu? Témoignez-en, parce que ça libérera aussi peut-être d'autres. La grâce nous unit. La grâce nous pousse à adorer Dieu, à le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous. La grâce nous pousse à obéir. La grâce nous pousse à accomplir sa volonté. Alors, vous avez peut-être bien retenu le petit statut que je vous ai donné au début du culte, mais je ne veux pas que vous reteniez celui-là, je veux que vous en reteniez un autre. Et c'est Jean-Noël qui me l'a donné hier, dans le livre de Jerry Bridge, À l'école de la grâce. Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Et vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. Je vous la redis. Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Et vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. J'ai prié pour conclure. Merci Père, parce que nous sommes au bénéfice de cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a aucun mérite. Je n'ai aucun mérite à être aujourd'hui ton enfant. Tout est par grâce. Seigneur, aide-moi chaque jour à vivre de cette grâce. De cette grâce qui rend réellement humble, de cette grâce qui accueille, qui bénit, qui accepte de se laisser conduire. Et merci Seigneur parce que cette grâce, elle dure. Elle dure encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons faire connaître cette grâce si merveilleuse que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Seigneur, tu le dis dans ta parole, tu veux que tous soient sauvés, que tous puissent entendre, que tous viennent à la foi. Seigneur, donne-nous de prêcher, de témoigner fidèlement de ta parole, de ton œuvre dans nos vies, pour que d'autres aussi puissent venir à la foi, accepter ce cadeau immérité que tu fais. Amen.